Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Le Mali a atteint une croissance de 3,1% en 2021 malgré le déficit budgétaire et les sanctions de la CEDEAO. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Économie et des Finances à la télévision nationale. Procès de l'ex-membre présumé d'Ansardine et Acmi Al-Hassan Ag Mahmoud devant la CPI. Pour ce deuxième jour, le témoignage a porté sur son évaluation psychologique. Les usagers de l'axe Bamako-Kenyeba sont indignés du niveau de dégradation de ce tronçon. Ils déplorent aussi le non-suivi du règlement relatif aux charges des poids lourds. Les détails avec notre envoyé spécial, c'était là le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la présentation, Hamsitou Touré. En 2020, le Mali a encaissé moins de 200 milliards de francs CFA sur une prévision de près de 400 milliards d'appui budgétaire des bailleurs de fonds. Mais en 2021, il n'y a eu aucun appui budgétaire. Ces informations ont été rendues publiques hier par le ministre des Finances. C'était sur les antennes de l'ORTM. Le ministre Aloussé Nissano indique toutefois que le pays a atteint une croissance de 3,1% en 2021 malgré le déficit budgétaire. Un résumé des propos du ministre avec Mamadou Samassikou.
On dort très peu, mais on reste engagé parce que nous avons une vision qui est partagée par l'ensemble de la population, a déclaré le ministre à l'entame de ses propos. Selon lui, la gestion du Mali dans le contexte actuel est un défi, un challenge. Il a regretté notamment les sanctions de la CEDEAO, les conséquences de la COVID-19 avec la cherté de la vie et la rareté des appuis budgétaires. L'investissement dans la relance économique est une des mesures économiques prises pour y faire face. Le ministre affirme que plus de 87 milliards ont été déboursés par l'État pour différentes dépenses au niveau de la filière coton. Ce secteur fait vivre directement plus de 4 millions de Maliens, a-t-il précisé. La Comatex sera restructurée dans les prochains mois, a aussi annoncé le ministre Sanou. Il a également ajouté que la relance de l'OMH va coûter à l'État 115 milliards de francs CFA et le plan de développement 2022-2026 de l'EDM coûtera 2250 milliards. Le chef du département des finances a signalé que les recettes douanières sont passées de moins 50 milliards par mois à 60 milliards de francs CFA à la date du 31 décembre 2021. Il a noté une augmentation de recettes fiscales sans préciser les chiffres. Le ministre indique aussi que les dispositions sont prises pour l'approvisionnement du pays en carburant. Monsieur Sanou rassure les Maliens que le pays a des perspectives de croissance immenses.
Sur le même sujet, des économistes affirment aussi que le secteur informel a beaucoup contribué à la résilience du peuple malien face à l'embargo. C'est le cas de l'économiste Abdoulkarim Diamouténé. Il est joint au téléphone par Abdoulaye Touré.
D'abord, il y a eu des voies de contournement pour continuer à ravitailler le pays. Donc à ce niveau, ça a beaucoup aidé la population. Les sanctions ont beaucoup plus concerné l'État, c'est-à-dire la capacité de l'État à financer l'économie. Pour ce qui est du financement privé, il n'y a pas eu de problème, parce que quand vous prenez l'économie malienne un peu globalement, le secteur privé et informel est aussi important. Donc ce qui fait que toute cette activité économique interne continue à fonctionner, même ses rapports avec les différentes banques, ça marche, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Les ressources de l'État, c'est l'impôt. Donc les entreprises continuent toujours à tourner, et donc l'État a toujours les moyens de recouvrer un certain nombre de ressources, donc ce qui peut lui permettre de faire face à ses dépenses et à ses dépenses quotidiennes, dont les salaires.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre actualité du jour, les localités de Farabougou et Marébougou dans les régions de Ségou et Mopti sont toujours encerclées par les groupes djihadistes. Et cela malgré les efforts consentis pour la libération de ces deux localités par les forces armées maliennes. Les entrées et les sorties des populations restent timides à Marébougou et interdites à Farabougou. Le point avec Mariam Koulibaly.
Pas d'enseignants dans les écoles, pas de matrones dans les centres de santé. L'armée passe chaque mois dans la ville, livrer de la nourriture et évacuer les malades. C'est dans ces conditions que les habitants de Farabougou survivent, nous rapportent de nombreux témoignages. Même si on parle de sa libération il y a quelques mois, ces populations estiment que la situation sécuritaire n'a pas évolué. Elles précisent également que tous les habitants de la localité dépendent de l'aide des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté. Ils craignent que l'hivernage ne débute dans ces conditions. population. Même situation à Maribougou dans le cercle de Djéné, région de Mopti. Là-bas, depuis le passage de l'armée à la veille du mois de Ramadan, elle n'est plus retournée dans la ville. Des témoins expliquent que les voies sont minées. Ils sont enterrés dans leur ville avec le peu d'animaux qui restent. Cette insécurité est récurrente à Tessit, Menaka et certains hameaux du cercle d'Ansongo. Les habitants de ces localités sont meurtris par les attaques des groupes terroristes. Ils souhaitent tous un retour définitif de la sécurité.
La journée internationale de la Croix-Rouge a été célébrée au Mali dimanche dernier. Selon les responsables de cette organisation, les actions humanitaires menées au Mali ont permis de sauver de nombreuses vies à travers le pays. Ils invitent tous les acteurs à œuvrer pour le bien-être de tous, sans aucune distinction. Astou Koulibaly, présidente de la Croix-Rouge au Mali, est au micro de Sita Sidibé.
Les nouvelles orientations stratégiques 2021-2025 de la Croix-Rouge malienne sont en droite ligne avec le programme de développement de l'État, avec plusieurs domaines. La santé, la sécurité alimentaire, moyens d'existence, le renforcement institutionnel, organisationnel. Au cours de ces dernières années, plusieurs résultats ont été obtenus à travers la réalisation de divers projets. Pour la santé maternelle et infantile, près de 40 000 enfants ont été pris en charge dans le cadre de la lutte contre le PNUD. Pour renforcer la prise en charge des enfants, dans le domaine de la gestion des catastrophes et de la sécurité alimentaire, 861 migrants assistés, 69 ménages Croix-Rouge traités à travers le transfert monétaire avec plus de 150 millions de francs CFA.
Je l'annonçais dans les titres, le procès de l'ex-membre présumé d'Ansardine et Acme Al-Hassan se poursuit devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Le premier témoin cité par la défense a fait sa déposition aujourd'hui. Présenté sous l'identifiant D18, alinéa 0020, il s'agit d'un expert en psychologie spécialisé dans l'évaluation et le diagnostic des traumatismes liés à la torture. Son témoignage a porté sur l'évaluation psychologique d'Al-Hassan pour savoir si les traumatismes qu'il a subis lui permettent d'être jugé. Adama Madou Aïdara.
Le bureau du procureur a interrogé les témoins sur l'évaluation psychologique qu'il a faite à Al-Hassan. Comment ce processus s'est déroulé et ce qu'il a pu relever. L'évaluation psychologique avait pour but d'évaluer et de diagnostiquer l'impact des traumatismes subis par Al-Hassan. Cela dans le but de savoir si l'accusé est apte à être jugé. Les avocats de la défense ont indiqué ce lundi dans leur déclaration liminaire que leur client avait été victime de traumatismes liés à plusieurs épreuves qu'il a vécues. Parmi celles-ci, la mort de sa fille, la torture dont il a fait l'objet pendant sa détention par les services de renseignement malien. Les avocats de la défense ont même indiqué que ces traumatismes enlèvent toute fiabilité au témoignage qu'Al-Hassan aurait fait devant la cour. Les débats entre le bureau du procureur et les avocats de la défense se sont poursuivis jusque dans l'après-midi, chaque partie essayant de convaincre les juges. Il faut rappeler qu'Al-Hassan est poursuivi pour avoir commis des crimes présumés contre l'humanité et crimes présumés de guerre entre 2012 et 2013 à Tombouctou.
La route Bamako-Kenyeba est dans un état de dégradation avancée. Cet axe devient de plus en plus impraticable en cette période de début d'hivernage. La dégradation avancée de cette route, construite en 2010, suscite l'indignation des usagers et des interrogations sur le respect des normes dans la construction et l'entretien de ces routes. Pour les usagers, ces routes se dégradent rapidement parce qu'elles sont mal construites et ne font pas l'objet d'entretien régulier. Ils déplorent aussi le non-suivi du règlement relatif aux charges des poids lourds. Le point avec notre envoyé spécial à Kenyeba, Omar Waigalo.
Le mauvais état de cette route longue de 778 km² a de graves conséquences sur les transports intra-urbains. Pour les chauffeurs et les promoteurs des compagnies de transport, cette situation détériore leurs véhicules et les fait perdre du temps et de l'argent.
Entre Bamako et Kenyeba, le goudron n'existe même plus. Avant, nous ne faisions que 7 heures et 8 heures de trajet. Présentement, ce n'est plus le cas. Les chauffeurs et les passagers nous sont tous fatigués. Quand on arrive à Bamako, tout le monde est épuisé. Il est rare de voir les véhicules faire le trajet quitter Kenyeba sans tomber en panne. Surtout les pannes dues à l'état de la route, cela nous fatigue beaucoup.
Cette colère est aussi partagée par les passagers Bamako, Kenyeba et d'autres usagers. Ils demandent aux autorités de reconstruire ces axes pour mettre fin à leur calvaire.
L'état de la route est vraiment mauvais. Nous sommes très fatigués. Entre Kenyeba et Bamako, la route est vraiment impraticable.
Rappelons que la route Kita Kenyeba a été construite entre 2009 et 2010. Cette route s'est complètement dégradée à cause des engins de poids lourds qui se dirigent vers les sites d'Orpayaz. Oumar Waigalo, depuis Kenyeba, pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Lancement ce lundi 9 mai 2022 dans le district sanitaire de Koulikoro de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19. L'information a été donnée au cours de la rencontre du comité de pilotage local de la lutte contre la COVID-19. Cette campagne, qui va durer 10 jours, prévoit 13 387 doses de vaccins et concerne les vaccins Sinovac, Johnson & Johnson et Sinopharm. Le district sanitaire de Koulikoro a enregistré jusqu'ici 180 personnes touchées, dont 2 décès et 131 guéris. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute. Dans un instant, la question A. Le centre de santé de référence de Blaque couvre plus de 17 communes du cercle. Plus de 10 000 consultations ont été effectuées dans la structure sanitaire en 2021. C'est ce qu'indiquent les responsables du centre de santé de référence. Ils demandent plus d'infrastructures et de ressources humaines qualifiées pour une meilleure prise en charge des patients. Docteur Famakan Kane, médecin-chef du centre de santé de référence de Blaque. Il répond aux questions de Moussa Malessissoko, notre envoyé spécial de retour de Bla.
Ici, c'est la pathologie la plus fréquente, c'est le paludisme. Nous avons aussi, à une certaine période, des infections respiratoires aiguës, mais nous avons aussi un service surtout pour la malnutrition. Les enfants sont beaucoup plus admis aussi pour la malnutrition aiguë sévère. Et en plus de cela, au niveau du CCRF, nous avons un service de chirurgie, un service de médecine générale, nous avons un service d'ORL, une unité d'ORL avec l'odonto, une unité aussi d'ophtalmo. Et aussi, la maternité fait beaucoup d'accouchements, près de 1500 accouchements par an, donc 500 césariennes de façon globale. Et la position aussi de Bla fait que nous arresterons beaucoup de cas d'accidents de voie publique. En 2021, nous avons arrêté 204 accidentés.
Le CCRF couvre quelle localité?
Le CCRF couvre l'ensemble des 242 villages, donc les 17 communes du cercle de Bla. C'est un centre de référence pour les 35 CESCOM.
Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans ce centre de santé?
La première des difficultés, c'est la vétusté des infrastructures. Un centre de santé revitalisé depuis que Bla était arrondissement avant des années 77. Nous avons un bloc opératoire qui ne répond pas aux normes. On a identifié, à la demande du ministère de la Santé du département, un site. Les études architecturales ont été faites, mais nous attendons un financement pour la construction. Difficulté aussi, j'allais arriver, c'est l'insuffisance du personnel. Par exemple, le personnel qualifié. Prenez la maternité. Normalement, au niveau d'une maternité de CCRF, il faut un minimum de 6 sages-femmes. Nous n'avons que 2. Les infirmières obstétriciennes n'en ont que 2. Donc, tout le personnel de la maternité, en tout et pour tout, 2 sages-femmes, 2 infirmières obstétriciennes qui doivent faire la prise en charge, ils doivent suivre les programmes. La pédiatrie, nous n'avons pas de pédiatre. Et au niveau de la traumatologie, où nous arresterons beaucoup de cas d'accidents, de par notre position, nous n'avons pas de traumatologue. L'urénie, nous avons beaucoup de cas de malnutrition aiguë qui sont hospitalisés, mais nous n'avons pas une unité. Nous avons 2 vieilles ambulances qui ont plus de 5 ans, avec les terrains difficiles. Et souvent, on est en panne même au cours des évacuations. Et nous avons l'accompagnement de nos responsables des collectivités et de l'administration, mais c'est des réelles difficultés que nous avons.